heures de la Bible en 24 heures. Ce soir, nous allons essayer de survoler Samuel, roi et les chroniques. Notre approche se base sur l'idée que les 66 livres de la Bible, qui ont été écrits par près de 40 personnes qui ne se connaissaient pas, ou peu du moins, la plupart, sur une période de 1500 ans, ces 66 livres, en fait, forment un système intégré de messages. Et on a déjà évoqué l'idée que l'origine de ce système de messages, de ce message intégré, il est en dehors de la dimension du temps et de l'espace. Et ça, c'est en quelque sorte un clin d'œil de Dieu qui veut nous faire connaître que cette parole, c'est vraiment son message à notre destination, et que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par les hommes. Nous croyons que le thème central de ces 66 livres, c'est Jésus-Christ. Le Créateur lui-même s'est fait homme. L'Ancien Testament, c'est l'histoire d'une nation. Le Nouveau Testament, c'est l'histoire d'un homme, Jésus-Christ, Dieu le Fils, qui entre dans sa création. Et cette incarnation, ce moment où il est devenu homme, c'est en fait l'événement central de toute l'histoire. Il est mort sur une croix de criminel pour nous racheter, et il est vivant aujourd'hui, il est ressuscité. Et la plus grande chose que nous puissions découvrir dans notre vie, c'est de le connaître et de nous placer au bénéfice de son salut. Ça, c'est le message de la Bible. Et donc, nous survolons, depuis 7 semaines maintenant, l'Ancien Testament, et nous arrivons à la période qui suit les juges, avec la personne de Samuel. Donc le panorama que nous allons essayer de voir ce soir, c'est l'avènement de la monarchie, avec l'arrivée au pouvoir du roi Saül, puis celle de David, de Salomon, qui va être suivie par la division du royaume en deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud, Israël et Juda, jusqu'à ce que ces deux royaumes soient contraints à l'exil. 1 et 2 Samuel parle bien sûr du prophète Samuel, qui lui est en fait un lien entre la période des juges et la monarchie. Vous vous souvenez de la période des juges, elle était caractérisée par quelque chose qui, à bien des égards, décrit notre temps. C'était une période où chacun faisait ce que bon lui semblait. Laissez-moi faire ce qui m'intéresse, vous faites ce qui vous plaît, ne m'imposez pas vos idées, vos contraintes, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun faisait bon ce que bon lui semblait. On parle dans 1 et 2 Samuel du roi Saül et de David. Les livres de 1 et 2 rois couvrent les premières 40 années du règne de David, et puis la transition avec le roi Salomon qui lui succède, la guerre civile qui va diviser le royaume, et l'exil. 1 et 2 chroniques, c'est en fait une répétition de l'histoire, mais là l'accent est mis sur le royaume du sud, le royaume de Juda, celui qui va continuer la nation d'Israël. Le royaume du Nord, lui, ne va pas se remettre de l'idolâtrie, de l'exil. Ils vont être détruits par l'Assyrie, qui va envoyer des peuplades peupler le royaume du Nord. Le royaume du Sud, lui, va continuer un peu plus longtemps. Il va y avoir quelques bons rois, mais il va se retrouver aussi en exil à Babylone pour une période bien définie de 70 ans, qu'on appelle justement l'exil. Élie, le grand prophète, prophétise pendant la fin de la période de un roi, et son successeur Élisée dans le début de Deux Rois. Alors quand on commence à lire la Bible, en partant de la Genèse, on a en fait un récit assez linéaire qui est relativement facile à suivre, notamment avec les patriarches. Mais là, lorsqu'on arrive à la royauté, surtout que la royauté se divise, là ça devient beaucoup plus confus. On a des rois des deux côtés, il y a des prophètes qui parlent au roi, et donc il n'y a pas de recette miracle, il faut lire la Bible, essayer de faire un peu des panneaux, des petites comparaisons entre ce qui se passe dans les différents livres. Et mon but ce soir, ce serait de vous donner envie de lire vous-même tous ces livres pour vous faire une idée vous-même de comment ça s'articule. Alors nous avons dit d'abord 1 Samuel. Samuel, c'est le dernier des juges. 1 Samuel, donc, parle de son enfance. On ne va pas pouvoir rentrer beaucoup dans le détail. Sa maman, c'était Anne, qui était la femme d'Elkana. Elle le confie, elle était stérile lorsque l'enfant naît, elle le confie à Élie, le prêtre. Et puis, Samuel est appelé. Vous vous souvenez, c'est l'épisode où il y a une petite voix qui lui parle. Et Élie va voir, plutôt Samuel va voir Élie pensant que c'est lui qui l'a appelé. Il se recouche et puis il est encore appelé. En fait, c'est Dieu qui l'appelle. C'est lui qui va installer la royauté en la personne de Saül. Ce roi Saül a des débuts prometteurs. C'était un bel homme fort. Malheureusement, il va tomber dans la folie, le péché. Il va avoir une fin tragique qui va laisser la place à David. David qui va recevoir l'onction que recevaient les rois par le prophète Samuel et qui va être chassé par le roi Saül, qui va être fou de jalousie et de rage vis-à-vis de ce jeune roi sur qui la main de Dieu est très visible. Samuel, c'est le premier grand prophète. Il commence même une école des prophètes. À l'époque, la principale menace vient de la peuplade, du peuple des Philistins, qui vont opprimer Israël pendant 40 ans. Il va y avoir quelques victoires d'Israël sur les Philistins, mais le plus souvent, ce sont des victoires, on appelle ça des victoires tactiques, c'est juste pour un moment. On se souvient justement de David et Goliath. C'est pas des victoires définitives. Il y a un épisode intéressant dans 1 Samuel 4 où Israël est battu par les Philistins qui s'emparent de l'Arche de l'Alliance. Vous vous souvenez de l'Arche de l'Alliance qui se trouvait dans le Saint des Saints, dans le tabernacle, qui contenait les tables de la loi, le bâton d'Aaron et une urne remplie de manne en souvenir de la provision du Seigneur dans le désert et qui était recouvert de ce couvercle où se tenaient deux chérubins, deux anges et sur lequel se tenait la présence glorieuse de Dieu. Cette arche de l'Alliance est emmené par les Philistins et il va causer bien des problèmes aux Philistins. C'est pas sans rappeler le film de Spielberg sur à la recherche de l'Arche de l'Alliance, où ceux qui essayent de s'approcher de l'Arche à la fin du film sont détruits. Le dieu des Philistins, notamment Dagon, tombe en présence de cette arche. Ils ont des maladies, on voit qu'il ne fait pas bon s'amuser avec la puissance de Dieu, et que si les Israélites ne sont pas capables de défendre le sacré de l'arche de l'Alliance, Dieu lui-même est capable de se venger de l'incrédulité du sacrilège des païens. Le peuple, les Philistins seront finalement vaincus par David. Le peuple va se plaindre auprès de Samuel. Et au verset 5 du chapitre 8, ils lui disent, le peuple dit à Samuel, « Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous pour nous juger un roi comme en ont toutes les nations. » Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Samuel pria l'Éternel. Et Dieu dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. » Et on se souvient d'une prophétie, en fait, dans Deutéronome 17,4, où l'Éternel avait dit, « Lorsque tu seras entré, 17,14, pardon. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, « Je vais établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. » Et en fait, on voit que le désir des Israélites, du peuple juif, c'était d'être comme tout le monde. C'est d'avoir un roi, un Samuel 8:20. Leur prière, c'était « Nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il sortira devant nous et conduira nos guerres. » Et c'est un peu ingrat de parler ainsi à Dieu, parce que, comme le disait Dieu, c'est pas Samuel qu'il parlait, c'était à Dieu lui-même. Dieu qui les avait conduits de victoire en victoire lorsqu'il l'écoutait. Est-ce que nous aussi, on n'est pas des fois à chercher à être comme les gens qui nous entourent au lieu d'être un peuple à part qui est dirigé par Dieu? Je crois que si, sans être bizarre, sans être un peuple un peu plus sain que les autres, si nos activités, nos intérêts étaient plus centrés sur le Seigneur, je crois que nous aurions peut-être un peu plus d'impact sur la société, alors qu'en fait, on constate que c'est plutôt la société qui a un impact sur l'Église. Et ça, c'est quelque chose que je soumets à chacun, à moi-même, en premier. Est-ce que, au lieu de regarder des programmes de télé, des fois qui ne sont pas bien édifiants, est-ce que je ne ferais pas mieux de lire ma parole ou de prier, de partager, d'aider les autres qui sont dans le besoin de... Mais là, on voit que le peuple juif qui vivait dans une théocratie où Dieu était le roi, en fait, il veut être comme tout le monde, ils veulent avoir leur roi. Il est intéressant que Dieu leur dit à Samuel d'avertir le peuple que c'est très bien, ils auront un roi, mais qu'un roi, ça a des droits sur le peuple. Et il leur dit au verset 11 du chapitre 8, « Il prendra vos fils, il en disposera comme des soldats, il prendra vos filles, il les fera travailler comme parfumeuses, cuisinières, boulangères, il prendra des impôts, il va prendre des champs, des vignes, des oliviers, il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes, il prendra le meilleur de vos serviteurs, de vos jeunes gens, de vos ânes, il s'en servira pour ses travaux. Et il prédit, ce jour-là, vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, verset 18, mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. » Et là, le peuple refuse d'écouter la voix de Samuel. Ils disent, non, 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 on veut un roi, on veut un roi, vive le roi, on veut un roi. Et ça, c'est tellement aussi caractéristique de moi, de ma vie, peut-être de la vôtre, lorsque nous voulons à tout prix avoir ce que nous voulons, même lorsque le Seigneur nous dit, si tu veux, je vais te le donner, mais c'est pas la meilleure chose. Des fois, il nous donne nos désirs pour que nous arrivions nous-mêmes à une conclusion que nous devons revenir à Dieu et le laisser nous donner les désirs de notre cœur. David arrive sur la scène, donc avec l'épisode de Goliath, c'était un géant, un combattant professionnel, qui était peut-être un vestige des expériences génétiques de Satan, qui faisait que des anges avaient eu des rapports avec des femmes humaines. Et donc cet homme était... Vous connaissez bien l'histoire. Il se moquait du Dieu des Juifs. Et David, qui avait un cœur pour l'Éternel, avait relevé le défi. Plein de courage, il avait rejeté l'armure du roi qu'on lui tendait, parce qu'il était handicapé par cette armure. Et lui, qui était un berger, qui avait l'habitude de manier la fronde, d'une seule pierre, avait descendu ce géant qui faisait peur à tout Israël. Et bien sûr, David, on va le voir, c'est un type, une préfiguration de Jésus qui doit régner sur le trône de David. David, c'est donc ce type de Jésus, et Jésus peut lui aussi abattre les géants que nous rencontrons dans nos vies. Ce géant qui peut être le péché dans certains domaines, les inquiétudes dans d'autres. Si nous laissons le Seigneur les combattre, si nous déposons ses fardeaux à ses pieds, il est capable d'en prendre soin. Goliath, dans le même sens, peut être une préfiguration, une image de Satan qui vient et qui fait peur en donnant de la voix par sa taille. Mais si nous sommes avec Dieu, le Dieu vivant, alors il n'est pas de taille à résister. Ça, c'est le message du passage de David avec Goliath. Au passage, David avait pris 5 pierres, alors qu'on sait qu'il lui suffisait d'une pierre pour faire tomber Goliath. Pourquoi est-ce qu'il y avait 4 autres pierres dans sa gibecière, dans son sac? C'est parce que Goliath avait 4 autres frères des géants qui vont être... Ce sont les vaillants serviteurs de David qui vont s'occuper d'eux plus loin. Alors, Saül, encore une fois, c'était un homme sur qui Dieu avait mis son esprit, qui avait eu des débuts très prometteurs, mais qui n'avait pas obéi. Il avait... Par exemple, il n'avait pas attendu Samuel à Gilgal, il avait pris les pains de proposition dans le tabernacle, alors que c'était une tâche qui était réservée aux prêtres. Il devait détruire toutes les Amalécites et leurs biens, mais il avait décidé de garder les troupeaux et les meilleures bêtes des troupeaux de ces Amalécites, en se disant c'était dommage quand même de gaspiller des belles ressources comme ça, et que de toute façon il allait les donner au Seigneur. Du moins, c'est ce qu'il disait à Samuel. Et ça nous rappelle les profondes paroles de Popeye. Vous connaissez le personnage de dessin animé américain, Popeye, et il disait que le mal reste le mal, même si ça nous arrange. Il y a des fois, c'est vrai, on sait que des choses sont mal, mais on se dit, si je ne tue pas ces bêtes, ben, je peux les avoir peut-être pour donner des beaux cadeaux à l'Éternel, ou en faire des dons, ou les faire se reproduire. Mais là encore une fois, le Seigneur ne veut pas qu'il y ait de place pour le compromis. Il veut que nous obéissions, et il nous dit, dans, notamment dans l'évangile de Jean, que la seule façon de lui montrer qu'on l'aime, c'est par l'obéissance. Il avait l'habitude, ce roi Saül, de dépendre de Samuel pour avoir des instructions, parce que Samuel était un grand prophète qui avait vraiment des paroles du Seigneur. Et lorsque le prophète Samuel décède, Saül est très, très perdu. Il va même voir, jusqu'à voir la sorcière à Endor, dans 1 Samuel 28, qui en fait était quelque chose qui était formellement interdit par la foi juive, par la Torah. Notamment dans le Deutéronome, il était interdit d'avoir recours à de la voyance, à des horoscopes, à des sorcières. Et en fait, cette sorcière va lui promettre sa mort très prochaine. 2 Samuel nous parle de la carrière, essentiellement de la carrière de David. La capitale était à Hébron. David va être roi de Juda pendant 7 ans à Hébron, puis quand il va devenir le roi de tout Israël, il va déplacer la capitale à Jérusalem, la ville qui existe jusqu'à nos jours, bien sûr, que vous connaissez. Et David, c'est un contraste, c'était un grand homme de Dieu, qui a fait des choses formidables pour le Seigneur. En même temps, il est très connu pour son péché, notamment son péché avec Bathsheba. Et pourtant, la Bible en parle comme un homme après le cœur de Dieu. Par exemple, 1 Samuel 13, 14, il est dit que l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel a établi conducteur de son peuple, parlant de David. Dans les Actes 13, 22, il est dit « Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et pourtant, vous connaissez l'histoire de Bathsheba. David qui, au soir de l'apogée de son royaume, après bien des conquêtes, au lieu d'être sur le champ de bataille, il était au palais, et là il est dit qu'il voit une jeune femme de grande beauté qui se baignait, et qu'il va la faire chercher pour commettre l'adultère avec elle. Il s'aperçoit que c'est une femme mariée à Uri, un soldat qui était dans la bataille. Pour cacher il se trouve que Bathsheba tombe enceinte et que donc David veut dissimuler son péché. Il fait chercher Uri pour essayer de faire que Uri soit avec sa femme et qu'on puisse dire que l'enfant vient du père légitime, du mari. Mais Uri donne une leçon de consécration à David, parce qu'il dit non, mes compagnons sont en guerre, je ne veux pas me reposer et aller dormir avec ma femme. Et donc, voyant qu'il ne peut pas arriver à ses fins par cette façon, David va envoyer Uri au plus fort de la bataille, en fait, en commettant un meurtre. Et donc, David ajoute le meurtre à l'adultère. Et pourtant, il reste connu comme un homme selon le cœur de Dieu. C'est parce que David se repentait. David pouvait éprouver vraiment un chagrin sincère. Et il suffit de lire les psaumes, notamment le psaume 51, où il explique comment il souffrait dans son péché. Et ça, c'est un encouragement pour chacun, chacune de nous, de dire que même si nous tombons dans le péché, si nous nous repentons sincèrement, nous pouvons être aimés de Dieu. Nous pouvons être un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Un passage très important dans l'Ancien Testament, c'est 2 Samuel 7, qui est en fait ce qu'on appelle des fois l'alliance avec David. Et c'est une promesse que la dynastie du roi David va être éternelle. À partir donc 2 Samuel 7, 11. Ou verset 13, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Ma bienveillance plus loin ne se retirera plus de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'avais écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. C'est une alliance inconditionnelle de Dieu que reprendra le prophète Ésaïe dans ce passage bien connu d'Ésaïe 55, où il nous dit que nous qui avons soif, il nous invite à venir vers les eaux, Ésaïe 55, d'écouter le Seigneur, de ne pas se fatiguer pour ce qui ne rassasie pas. Tendez l'oreille et venez à moi, verset 3, écoutez, votre âme vivra, je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. David, c'est un exemple et c'est un type, bien sûr, de Jésus. Le trône de David est un trône éternel. Dans le psaume 89, il est aussi dit que la bienveillance est bâtie pour l'éternité. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, mon bras le fortifiera, je lui conserverai toujours ma bienveillance, mon alliance avec lui sera ferme, je rendrai sa descendance perpétuelle, son trône aussi durable que les jours des cieux. J'ai juré par ma sainteté, mentirai-je à David. Sa descendance subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il sera établi pour toujours, le témoin qui est dans la nuit est fidèle. Bien sûr, lorsqu'il est question du trône de David, il est question du trône de Jésus-Christ. Il est dit que le Seigneur Dieu donnera le trône de David à Jésus, dès le Luc 1, 32, dans l'annonce du Messie qui allait venir sur terre. Il allait avoir le trône de David. Il est dit dans Actes 2, 30 que Dieu avait juré par serment à David de faire asseoir ses descendants sur son trône. Où est Jésus maintenant ? Il est sur le trône de son Père, il est sur le trône de Dieu. Cette promesse d'un temple de David, d'un trône de David éternel, en fait, ça signifie, à mon avis, que le Messie va régner sur le trône de David dans le millénium. Par rapport à ce qu'on voit dans l'Apocalypse, Israël n'est pas dans le territoire où elle devrait être. Jésus-Christ devrait régner sur le trône de David qui est sur terre. Donc il va y avoir un temps, et bien sûr dans l'éternité, ce sera dans les cieux, mais je crois qu'on peut, avec ce trône de David, qui sera occupé par ce Messie, voir déjà le retour de Jésus et son règne sur terre dans la période de 1000 ans qu'on appelle le millénium. L'apogée de la carrière de David, c'est lorsque le territoire il a conquis les Philistins à l'ouest, au nord les Syriens, à l'est les Ammonites, les Moabites, au sud les Amalécites, les Édomites. C'était aussi un grand chef militaire, un grand général. C'était un grand administrateur. C'est lui qui va organiser la prêtrise en 24 classes. Donc ça, c'est dans 1 Chronique 24. Et bien sûr, il est aussi un grand poète, l'auteur des psaumes, des chants. Et quel trésor Dieu nous a fait par ces psaumes. Il n'a pas écrit tous les psaumes. Nous savons que d'autres ont écrit par d'autres, par Asaph, par même Moïse, par Salomon, par d'autres auteurs. Mais quel trésor que ces psaumes! Combien elles ont consolé, combien elles consolent, combien elles vont continuer de consoler ceux qui cherchent Dieu et qui se trouvent dans la difficulté, dans le péché, dans l'opposition à Dieu et à eux, dans toute l'histoire de l'humanité. Alors bien sûr, malheureusement, ce tournant dans sa vie, cet adultère qui a fait qu'il a été repris par le prophète Nathan, qui l'a confronté de façon habile en évoquant l'histoire d'un riche propriétaire qui avait des tas de brebis, qui était allé voler la petite brebis d'un voisin, et il avait suscité la colère de David, qui avait dit que cet homme périsse. Et en fait, on voit combien le péché des autres est plus nous indigne davantage que c'est notre péché. Et bien souvent, les choses qui me révoltent le plus chez les autres, ça peut être des choses qui sont déjà des péchés en moi. Je ne vous dirai pas lesquels, mais peut-être que vous aussi, vous pouvez faire ça. Française. Lorsqu'il y a eu ce grand péché, il y a eu cette prophétie que l'épée demeurerait. Nathan donc a confronté David, qui a reconnu qu'il était cet homme, qui a confessé son péché. Mais là, Nathan, le prophète, a dit que l'épée demeurerait sur sa maison. Et en fait, l'histoire du reste de la vie de David a été une suite de choses tragiques. Il a eu Amnon, un de ses fils, qui a violé une de ses demi-sœurs, Tamar. Le frère de Tamar, Absalom, a tué Amnon pour venger le viol de sa sœur. Absalom a essayé de prendre le pouvoir du roi David en étant conseillé par un certain Ahithophel, Ahithophel, qui avait été un des conseillers de David, mais qui haïssait David de tout son cœur, et qui avait même conseillé à Absalom de prendre une des concubines de son père et de se livrer à l'adultère au grand jour pour humilier son père. Et est-ce que vous savez qui était cet Ahithophel? C'était le grand-père de Bathsheba. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite bien des fois, parce qu'en fait, le fils de Ahithophel, c'était un certain Éliam. Ça, on voit ça dans 2 Samuel 23, 34. Et dans 2 Samuel 11, 3, on voit qu'en fait, Éliam, c'était le père de Bathsheba. Et ça nous montre que l'idée qu'on a, qu'en fait, il était là, un soir, tranquillement, demandant rien à personne, et d'un seul coup, il voit cette belle femme nue, il va la faire chercher. En fait, c'était pas aussi soudain qu'on l'imagine. On pense qu'il avait déjà eu le temps il connaissait cette femme, parce qu'elle était la petite fille d'un de ses conseillers. Ils avaient sans doute eu l'occasion de se voir. Il avait dû sans doute échafauder des plans. Il avait peut-être déjà conduit toute une affaire dans sa tête. Et là encore, c'est l'application, c'est de ne pas prêter notre esprit au mal, de ne pas faire de provision pour la chair, comme il est dit dans Romains 13. C'est-à-dire de prévoir à l'avance le péché. Une des règles qui avait été donnée au roi, lorsque Dieu l'Éternel avait prophétisé que le peuple juif voudrait un roi, dans Deutéronome 17, Il avait dit qu'il n'est pas un grand nombre de chevaux, que le roi n'est pas un grand nombre de femmes, qu'il n'est pas beaucoup d'or. Là, on voit les chevaux, la puissance militaire, donc la puissance, l'or, l'argent, et puis les femmes. Et en fait, ces trois choses restent la façon favorite de Satan pour faire tomber les hommes. Le désir de puissance, l'orgueil, l'attrait féminin et l'argent. Ces choses sont toujours dans le cœur de l'homme pécheur, non racheté, lorsque son cœur n'est pas transformé par l'Esprit Saint, qui ne marche pas selon l'Esprit. Ces choses font que Satan n'a pas besoin d'être très imaginatif. Il sort ses trois cartes et bien rares sont ceux qui ne tombent pas. Et ça nous invite aussi à être prudents dans ces domaines, à être très prudents avec les femmes, à être très prudents avec l'argent, à être très prudents avec l'orgueil, le désir de puissance. Et je crois que l'inverse est bien sûr vrai pour les femmes, même si on n'a pas l'exemple réciproque. Quoique Bathsheba, elle aussi, a beaucoup souffert, leur premier-né est mort, et c'est le deuxième qui est devenu le successeur de David, Salomon. Alors encore une fois, lorsqu'on voit les feuilletons de télé d'aujourd'hui, lorsqu'on lit 1 et 2 Samuel, on a l'impression que les feuilletons télévisés d'aujourd'hui sont comme des feuilletons à l'eau de rose. La Bible, encore une fois, ne ménage aucune susceptibilité. La Bible est très franche pour nous montrer vraiment de quoi l'homme est fait au fond de lui quand il n'est pas transformé par Jésus, transformé par l'Esprit Saint, lorsqu'il ne vient pas à Dieu, qu'il ne prend pas cette nouvelle naissance. L'homme peut tomber très bas. Un roi, va nous montrer en fait les 40 premières années du règne de Salomon dans les premiers 11 chapitres. Salomon, c'est aussi un homme qui avait beaucoup de talent. C'est un homme, vous vous souvenez peut-être, qui au début avait demandé, Dieu lui avait proposé par une vision, de lui demander ce qu'il souhaitait d'abord. Et au lieu de demander la richesse, la puissance ou la gloire, il avait demandé la sagesse. Et cette sagesse, il en avait fait preuve lorsqu'il avait jugé entre ces deux femmes, qui prétendaient chacune avoir un enfant survivant. Une des femmes avait écraser son fils dans son sommeil, il ne restait plus qu'un enfant, et l'autre avait dit que cet enfant était à elle. Et donc Salomon se retrouve en face de deux femmes qui disent que le petit bébé leur appartient, et inspiré par le Saint-Esprit, il a cette réponse: très bien que l'on coupe en deux l'enfant et qu'on en donne un morceau à chacune. Et bien sûr, la vraie mère est prête à dire: non, surtout ne touchez pas à mon enfant, donnez-le à l'autre. Et ça, c'était des débuts très prometteurs aussi pour Salomon. David, lui, voulait construire une maison pour l'Éternel. Il avait d'abord construit un palais pour lui-même. Il s'était senti mal. Il avait dit: il faut construire une maison pour l'Éternel. Et Dieu lui avait dit, parce que c'était un homme de guerre, un homme de sang, il ne le laisserait pas construire ce temple, mais ce serait son fils Salomon qui le construirait. La construction du temple, c'est donc le grand accomplissement du roi Salomon. Le royaume d'Israël est à son apogée. C'est la puissance. Les peuplades ont été conquises, c'est un moment de paix. Le royaume est à son extension maximum, il va de la Méditerranée à l'Euphrate. et du nord jusqu'au sud de ce que Jésus, ce que Dieu avait promis en promettant la terre promise à Abraham. Bien que l'on dise qu'en fait Israël n'a jamais conquis tout le territoire que Dieu voulait pour elle. Alors, souvent on pense que le temple, c'est simplement un agrandissement du tabernacle. Et on sait qu'on a vu qu'en fait, le tabernacle, c'était une ombre des choses à venir, c'était une préfiguration du temple dans les cieux. Mais dans 1 Chronique 28, 11, on peut regarder ça. On s'aperçoit en fait que c'est le Saint-Esprit qui a donné le plan du temple à David. On sait que Moïse avait reçu les plans d'architecte du tabernacle, mais dans 1 Chronique 28, j'y cherche, 28. Un Chronique 28, 11 et 12, David donna à son fils Salomon le plan du vestibule et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des salles intérieures et de la pièce du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison d'Éternel et toutes les chambres de l'enceinte pour les trésors de la maison de Dieu et pour les trésors des choses saintes. Alors, certaines traductions disent, il l'avait dans l'esprit, d'autres disent ce qu'il avait reçu de l'esprit. Et verset 19, il est dit, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné de comprendre tout cela, tout ce qu'il faut faire selon le modèle. Donc on voit la construction de ce temple. C'était en fait un énorme projet. Si on fait le compte de tous les ouvriers, on s'aperçoit qu'il y avait près de 180 000 ouvriers. Et 3000 superviseurs. Ça, c'est un sacré projet, ça. Je sais pas, à l'époque, ça serait intéressant de voir quand les Américains ont envoyé le premier homme sur la Lune. La NASA avait aussi énormément de monde qui travaillait, en comptant toutes les entreprises qui travaillaient pour... Là, en ce moment, on parle de 200 à 300 000 troupes massées à la frontière de l'Irak. C'était un projet de cet ordre-là, c'était un grand projet, la construction du temple. On voit que par rapport au tabernacle, il y a beaucoup de choses qui sont multipliées par deux. Il y a deux fois plus de lavoirs, il y a deux fois plus de colonnes, il y a souvent deux fois plus de choses. Mais il y a des choses qui sont propres au tabernacle, au temple, pardon. Il y a un porche qui n'existait pas dans le tabernacle. Et puis il y a deux énormes piliers qui sont là, en bronze, qui ne supportent rien. Et peut-être on pourrait marquer sur les deux premiers piliers ici, bien que ces piliers ici, eux, ils supportent quelque chose, mais au moins ils serviraient à quelque chose, parce que là ils nous embêtent, ils nous empêchent d'avoir une salle bien, bien grande. Dieu merci, ils soutiennent le reste de l'immeuble. Mais à votre droite, c'est Yakin. Ces piliers avaient deux noms. Yakin, ça veut dire il a fermi. Et puis de l'autre côté, c'est Boaz, en lui la force. Le même nom que le rédempteur de Ruth dans le livre de Ruth qu'on a étudié la semaine dernière. Il y avait aussi des salles de réserve personnelles qui étaient pour les prêtres et qui étaient accessibles de l'extérieur. Et dans un autre passage, il est question des idoles privées qui étaient dans les chambres intérieures des prêtres. Et ça, quelque part, c'est un peu le film qu'il peut y avoir dans nos esprits. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Paul disait dans 1 Corinthiens 3,16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et certains pensent qu'en fait, le temple, c'est un modèle de la façon dont l'homme est constitué. Dans Actes, il est dit, Actes 17,24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. » Actes 17,24. Maintenant, Dieu habite en nous. Et vous vous souvenez donc de la structure du tabernacle qui est reprise dans le temple. Il y avait le parvis qui nous met en contact avec le monde extérieur. Et ça, c'est notre corps. Et puis, il y a le saint lieu où pouvaient entrer les prêtres. Il y avait le chandelier à 7 branches. Il y avait l'autel des parfums. Et sur la droite, il y avait la table des pains de proposition. Ça représenterait ce que la Bible appelle l'âme, ou le domaine de notre volonté, de notre intelligence, de la façon dont nous pouvons connaître les choses. Et puis il y avait ce dernier endroit où se trouvait l'arche de l'Alliance, la présence de la gloire de Dieu, le Saint des Saints, et ça correspondrait à notre esprit. Et donc ça, c'est toute une étude intéressante à poursuivre, on n'a bien sûr pas le temps, de faire l'analogie entre le tabernacle, le temple, et la façon dont Dieu nous a constitués. Alors il y a des choses intéressantes, on parle de la Bible qui a des erreurs, et notamment lorsqu'il est, il y est décrit que dans 1 Roi 7,23 il y avait la mer de Fonte qui était un grand bassin qui faisait près de 5 mètres d'un bord à l'autre, qui avait 2,50 mètres de hauteur et une circonférence qu'on mesurait qui faisait 3 fois le diamètre. Alors les adversaires de la Bible disent, voyez, on vous prouve qu'en fait la circonférence, on sait que c'est pas 3 fois le diamètre, c'est 3,14159265358979, c'est le nombre pi qu'on approximative, on utilise l'approximation 3,14 ou 22/7. Mais lorsqu'on regarde le texte grec, on s'aperçoit qu'il y a une correction et que le mot qui est désigné pour circonférence, il est remplacé par un autre mot. Et vous savez qu'en hébreu comme en grec, on attachait une valeur numérique aux lettres. Il n'y avait pas encore les chiffres arabes. Donc on désignait les chiffres avec des lettres. Et la valeur numérique du texte, du mot qui est utilisé dans le texte pour circonférence et celui qui est utilisé en correction, c'est la valeur du nombre en correction, c'est 106, et la valeur du nombre dans le texte, c'est 111. Et lorsqu'on corrige le nombre 3 par ce rapport de 106 à 111, on tombe sur 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, etc. Là encore, ceux qui veulent montrer que la Bible a tort, la Bible les prend par surprise et leur montre que non, Dieu sait de quoi il parle. C'est pas les mathématiciens qui vont apprendre à Dieu le rapport entre la circonférence et le diamètre. À l'époque de Salomon, c'est le grand Israël. Salomon est connu aussi pour ses écrits, c'est lui qui a écrit les proverbes, qui a écrit certains psaumes, le cantique des cantiques. Et puis, on a dit qu'en fait, il avait bien commencé, mais qu'il avait lui aussi s'était adonné au chariot, il s'était adonné aux femmes, puisqu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Alors, on sait qu'à l'époque, on se mariait non pas par appétit sexuel, mais c'était aussi parce qu'on pouvait établir des relations d'alliés avec certains autres royaumes, et la meilleure façon d'être en paix avec un autre royaume, c'était d'épouser la fille du roi. On savait que le roi n'allait plus attaquer, mais quand même, il avait fait tout à l'envers, il avait une richesse incroyable. Donc tout ce que Dieu lui avait demandé au roi de ne pas faire, de ne pas multiplier les chariots, la puissance, pas multiplier les femmes, pas multiplier l'or, lui s'y était donné en plein. Les femmes ont été la source de son apostasie, son éloignement de Dieu, parce qu'elles venaient de peuplades qui avaient des dieux païens, des égyptiennes notamment, et des cananéennes, qui amenaient leurs idoles, et Salomon, pour ne pas se fâcher avec elles, les laissait adorer leur Dieu. Il n'avait pas remplacé la vraie adoration du Dieu, mais il ajoutait. Et ça nous montre aussi que on peut penser qu'on ne se compromet pas, parce qu'on va toujours au culte, on lit la Bible un peu régulièrement, on prie de temps en temps, mais est-ce qu'on ajoute d'autres choses dans notre vie? Est-ce qu'il y a d'autres idoles auxquelles on laisse de la place dans nos vies? À ce moment-là, on est sur la mauvaise pente. Il avait fait construire des temples pour les dieux comme Astarté, d'autres dieux, de ces peuplades, même sur le mont du temple. Et finalement, l'Éternel dira à Salomon, puisqu'il en est ainsi avec toi, tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. 1 Rois 11. Dieu dit à Salomon qu'il va arracher le royaume de sa famille, mais il ne va pas le faire avec lui, il va le faire avec son fils. À l'époque, donc, dans 1 Rois, il est question de Élie, le prophète, dont le Nouveau Testament parle plus qu'aucun autre prophète. Élie lui a accompli 8 grands miracles. Il a été enlevé au ciel dans un chariot de feu. Il a notamment défié les prophètes de Baal au mont Horeb, en rendant folle de colère la reine Jézabel, la femme d'Achab, le roi d'Israël, qui était un très mauvais roi, et sa femme une femme dont l'Apocalypse parle encore comme signe de la persécution dans l'église à Thyatire. Certains y voient une préfiguration de l'inquisition des jésuites. On sait que la lettre de Thyatire, on peut voir un rapport avec l'église catholique, sachant que l'église protestante n'est pas ménagée non plus. 2 Rois, on voit la division du royaume avec l'arrivée donc du fils de Salomon. Le fils de Salomon qui s'appelait Roboam. Alors ça c'est un roi. À partir du chapitre 11, du chapitre 12 de 2 Rois, de 1 Roi, voilà. Roboam, à la fin, le roi Salomon avait augmenté les impôts et le peuple se plaignait de la dureté du régime. Et il y avait envoyé un dénommé Jéroboam, qui était le fils de Nébat, pour lui demander d'alléger la servitude que Salomon avait imposée à la fin de son règne. Et le roi Roboam, au lieu de prendre conseil des anciens, avait pris conseil de ses copains du même âge. Les anciens lui avaient donné le conseil, qui est un conseil qui est valable pour tout ministère. Ils lui avaient dit, si aujourd'hui tu te fais le serviteur de ce peuple, si tu te mets à leur service, si tu leur réponds en parlant avec bonté, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais lui avait passé outre, et au contraire, il avait décidé d'alourdir le joug, ce qui avait conduit à la rébellion et à la division. Jéroboam, devenant le roi du royaume du Nord avec 10 tribus, le royaume de Samarie, qui était la capitale, et le royaume de Juda restant à Roboam, au sud, avec comme capitale Jérusalem. Alors, c'est là qu'on rentre dans Deux Rois et qu'on voit les complications avec la liste de tous les rois qui se succèdent. Peu de bons rois. On voit le ministère d'Élisée, qui est le disciple d'Élie, qui avait demandé, lui, le double de la portion d'Élie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit que Élie avait accompli 8 grands miracles. Élie va en accomplir 16. Comme quoi le Seigneur répond à ce genre de prière, de donner une double portion de l'Esprit qui était sur Élie. Son ministère d'Élisée est très, très beau, il est rempli de compassion. Les miracles d'Élisée font plus penser aux miracles de Jésus-Christ, alors que ceux d'Élie font plutôt penser, sa personnalité fait plus penser à celle de Jean-Baptiste. Le livre de 1 Chronique et 2 Chroniques nous reprend en fait la même période d'histoire en ajoutant certains détails. Dans le livre des rois, il est souvent fait référence au livre des chroniques par l'expression « N'est-il pas dit dans le livre des chroniques d'Israël ?» Quelqu'un a dit que roi, ça nous donne le point de vue des hommes, alors que chronique nous donne le point de vue de Dieu. Finalement, le royaume du Nord en 721 avant Christ est dominé par le roi Sargon, qui emmène les 10 tribus en Assyrie et peuple le royaume du Nord par des Assyriens, d'où l'origine des Samaritains, un peuple mêlé qui était dénigré par les Juifs qui venaient de Jérusalem à l'époque de Jésus. Le royaume de Juda, donc le royaume du sud, avec Jérusalem pour capitale, lui va tomber en 586 et va partir en captivité à Babylone. Et au bout de 70 ans, il va commencer à revenir, et c'est là qu'on verra la prochaine fois le retour à Jérusalem avec Esdras, Néhémie et la reconstruction du temple. L'idée qu'il y a des tribus qui sont 10 tribus perdues, c'est pas quelque chose qui est biblique, c'est simplement quelque chose qui fait vendre les journaux. Juste un petit retour là, parce que j'attends que la cassette s'arrête, c'est que avec le prophète Élisée, on a une très belle illustration du combat spirituel. Il y avait dans 2 Rois 6, 17, l'épisode où le roi de Syrie est fâché parce que il se trouve que ils essayent d'attaquer Israël, ils font des plans, et à chaque fois le prophète Élisée va dire au roi d'Israël le plan que viennent de faire les Syriens, parce qu'il reçoit la vision par le Seigneur de ces plans. Et finalement on apprend au roi de Syrie où se trouve Élisée, on lui dit que c'est lui qui est la cause de ces problèmes, et il est à Dothan, une ville où, intéressante parce que c'est là que Joseph a été vendu en esclavage par ses frères. Ils sont assiégés et Élisée a un assistant, et le pauvre assistant, le jeune serviteur, il voit le matin en se levant toutes ces troupes qui les encerclent, et il dit « Ah mon Seigneur, que ferons-nous ?» Et le prophète Élisée lui dit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, qui n'est pas sans nous rappeler la promesse que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est au dehors, parlant de Seigneur du Saint-Esprit en nous et de l'ennemi, de Satan au dehors qui nous attaque. Et Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et ça, je crois que c'est... Nous aussi, nous devons réaliser avec les yeux de la foi que même si nous sentons que, en tant que chrétiens, on ne nous prend plus au sérieux, on essaye de parler de la Bible, on n'a pas d'écho, les gens ont tendance à être tolérants pour toute chose, sauf pour la Bible, d'où la nécessité de prier pour cette année de la Bible. Et là, on voit vraiment la réalité du combat spirituel. Et c'est un peu, disait Chuck Missler, qui est l'auteur d'une série de 24 heures sur la Bible, qui disait que c'est un peu comme sur votre logiciel de traitement de texte. Vous pouvez taper le texte et tout est bien formaté. Et puis il y a des fois une touche, on peut appuyer et puis voir tous les caractères qui vous permettent, les sauts de page, les paragraphes, tout ça, ça peut apparaître. Et d'un seul coup, c'est comme on voit tout ce qui sous-tend le texte. Il disait qu'on n'a pas une touche à toucher pour voir vraiment la réalité spirituelle, mais il faut être convaincu de cette réalité du combat spirituel. C'est pas contre la chair et le sang que nous nous battons, mais contre les puissances d'en haut, contre les démons, toutes ces principautés des ténèbres qui s'acharnent contre le chrétien qui a la foi en Christ. Donc c'est une très belle image que de voir ces chariots qui sont autour de la ville. Et je me souviens, la première fois que j'avais prêché à Nice, ça remonte à 1986 ou 89, dans une église, j'avais partagé cette vision. Et je disais que lorsqu'on arrive à Nice par le train, on voit les sex shops de l'autre côté de la gare, on voit une population qui bouge, qui n'est sans égard pour Dieu. Mais je disais, en fait, il y a des chars de feu qui sont autour. Et il y a un combat spirituel qu'on va gagner. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci pour la richesse de ta parole. Et c'est presque un regret qu'on va si vite, Seigneur. Mais... Donne-nous davantage le désir de nous plonger dans ta parole, Seigneur, pour la comprendre, pour l'apprécier, pour en mesurer toute la richesse, toute la profondeur, et surtout, Seigneur, pour nous aider à la mettre en pratique. Merci pour les leçons que tu veux bien nous montrer dans ces récits d'histoire passée, Seigneur, mais